affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Comme toutes nos émissions, celle-ci est enregistrée depuis notre studio situé au dernier étage du Palais de l'Institut de France, au Quai de Conti. De cette hauteur, la vue sur Paris est exceptionnelle, le regard embrasse un très beau panorama qui renforce le sentiment de contribuer à une institution proprement immortelle que ne sauraient atteindre ni les tumultes de la rue, ni ceux de l'histoire. Mais cette impression est bien sûr trompeuse. Pour preuve, en se penchant légèrement, on peut apercevoir par la fenêtre le Louvre où siégeait autrefois l'Académie française, du temps de l'Ancien Régime, avant d'en être chassée par la Révolution. Cette vue suffit ainsi à nous rappeler que l'Académie française a bien failli succomber à ces événements et que son destin est indissociablement lié à celui de la France, si bien qu'elle en partage les périodes heureuses, mais aussi les périodes les plus tragiques. Et c'est à l'une de ces dernières que nous allons consacrer notre émission. Nous avons en effet la chance et l'honneur de recevoir dans notre studio Yves Pouliquen. Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre de l'Académie de médecine, mais aussi de l'Académie française. Et vous venez de publier aux éditions d'Ile Jacob un ouvrage titré « Les immortels et la Révolution » qui se penche justement sur cette période troublée qui a bien failli être fatale à l'Académie. Puisqu'elle avait été dissoute et fermée, et qu'en fait, cet immortel a plutôt ressuscité.
Oui, exactement.
Tout d'abord, pouvez-vous nous évoquer les raisons qui vous ont poussé à vous plonger dans les archives et écrire ce livre sur cette période méconnue de l'histoire de l'Académie ?
D'abord, c'est que, quoique médecin, j'ai un grand goût de l'histoire, et que l'histoire du XVIIe et du XVIIIe ont particulièrement retenu mon attention. Les biographies que j'ai faites concernent en général ces siècles. Et là, précisément, en relation avec l'Académie française, j'avais deux confrères dont j'ai écrit les biographies. C'est Vic d'Azyr, grand médecin de la Marie-Antoinette, qui a vécu dans cette période de la Révolution. Et j'ai écrit aussi un livre sur Cabanis, un des célèbres idéologues de l'époque, héritier des Lumières, et qui était aussi un académicien, qui est entré à l'Académie française, mais après qu'elle ait été détruite, alors que Vic d'Azyr y avait été élu. Cabanis nommé et Vic d'Azyr élu. Et j'étais très intéressé par leur carrière et par les événements qu'avaient créés dans ces deux destins la survenue de la Révolution. Et c'est par la connaissance, si vous voulez, de leur existence, de leurs travaux, etc., que je me suis dit, après tout, pourquoi ne pas revoir ce qu'ont fait tous les académiciens pendant ces périodes tragiques ? Parce qu'ils étaient 35 à l'ouverture des États généraux. Combien étaient-ils à la suppression de l'Académie française en août 93 ? Combien ont survécu pendant la terreur, combien ont survécu au directoire, au consulat et même à l'Empire, puisque quatre d'entre eux existaient encore à la naissance de l'Empire. Et c'est les quatre d'entre eux qui finalement ont perpétué dans l'esprit français ce qu'était l'Académie française. Voilà, si vous voulez, le schéma qui m'a conduit à étudier alors la vie de chacun de ces 35 personnes et naturellement d'étudier aussi, d'une façon un petit peu plus brève, tous ceux qui les ont remplacés lorsque l'Académie française est ressuscitée.
Alors vous avez raison d'insister sur cet aspect biographique, car je l'ai dit, mais je le répète, le livre est intitulé « Les Immortels et la Révolution française ». Ce n'est pas une histoire de l'Académie sous la Révolution française, mais bien vous vous penchez sur des destins individuels, la façon dont chacun va se positionner. Peut-on toutefois commencer, je vous propose qu'on adopte un traitement chronologique.
Oui.
Quelle est l'ambiance à l'Académie ? Quels sont les courants, les sentiments qui animent l'institution à la veille de la Révolution ?
À la veille de la Révolution, il y a, je pense, un bon tiers qui est très heureux qu'il se passe quelque chose et que les années 87-88 aient mis en place cette grande idée des États généraux. Étant donné que la France allait très mal, que le roi essayait de se sortir de cette situation dans laquelle l'avait compromise la guerre d'Amérique et aussi les finances qui étaient vraiment... La France était quasiment en faillite. Donc je pense qu'un bon tiers... parmi ceux qu'on retrouvera d'ailleurs parmi les plus actifs au cours de la Révolution, un bon tiers était heureux de ça. Un bon tiers était strictement opposé à toute réforme. Et d'ailleurs, leur comportement le démontrera très aisément. Et puis, il y avait, je dirais, le milieu, le marais, en quelque sorte, qui, lui, était plutôt favorable. Et l'abbé Morellet, qui est l'un des témoins très importants de cette période, puisqu'il a été aussi probablement celui qui a ressuscité l'Académie française par sa volonté, son énergie, les relations qu'il avait. Et l'abbé Morellet les classe en ceux qui étaient pour la Révolution.
Dans ses mémoires, hein, c'est
dans
ça.
Dans ses mémoires, bien sûr, les classe, et ceux qui étaient contre la Révolution. En réalité, j'ai rectifié beaucoup de choses, parce que quand on étudie les uns après les autres, les destins de tous les académiciens, il y avait probablement 7 ou 8 terriblement opposés à la Révolution, et puis les autres étaient plutôt favorables à ce qui se passait.
Au début.
Au début, voilà. Et on peut dire que l'année 89, l'année 90, au fond, jusqu'à la fuite de Varennes, il y avait tout de même, dans l'esprit de l'Académie, l'impression qu'une monarchie constitutionnelle allait se mettre en place et que c'était plutôt une bonne chose, très acceptée et même très souhaitée. À part quelques individus extrêmement rigides qui voulaient la monarchie absolue et qui finalement ont quitté très rapidement dans ces années-là, ont quitté très, très rapidement le territoire. Alors, c'était donc, si vous voulez, tout de même une ouverture qu'a probablement cassée Varennes. Parce qu'à ce moment-là, Varennes, l'atmosphère politique de la France a complètement changé. Le roi...
Discrédité.
Oui, voilà. Bon, ça a été là une rupture, alors plus catégorique...
Aussi que dans tout le pays, d'ailleurs.
Dans tout le pays, oui, oui. Une rupture catégorique entre ceux qui espéraient encore sauver la Constitution et la monarchie constitutionnelle et ceux qui résolument ont une autre option. C'est l'abdication du roi. Et déjà, dans l'arrière-pensée, la République. Parce qu'il y avait des gens parmi les académiciens qui avaient déjà en tête un projet républicain, Condorcet, par exemple. Tout en ayant été constitutionnaliste au départ, mais au cours des événements, se disant, après tout, pourquoi pas la République ?
C'est ce qui frappe d'emblée, c'est qu'on sent à travers l'évolution de chacun des personnages, et c'est pourquoi le livre a beaucoup de chair, c'est qu'on se rend compte que la Révolution, ce n'est pas un bloc comme on le pensait, c'est un phénomène dynamique, évolutif, et dont les enchaînements d'événements obligent chacun toujours à se repositionner.
Oui, absolument. Absolument. Et ce qui témoigne, si vous voulez, de l'enthousiasme tout de même de départ chez certains, c'est la part que va prendre Marmontel, que va prendre Bailly, surtout, dans la rédaction des cahiers de doléances, dans les districts de Paris, et l'engagement qu'ils ont, un engagement politique pour certains, est direct, dans la recherche d'une élection.
Alors justement, commençons, puisqu'on a dit qu'il s'agissait de biographie, commençons par l'un des plus importants d'entre eux, par Bailly.
Oui.
Qui est-il et comment se retrouve-t-il embarqué dans cette affaire ? Parce que si j'ai bien compris, on l'appelle plus qu'il ne se
licite. Oui, exactement. Bailly, c'est quand même le type, la référence, je crois, très importante de cette période. Bailly n'est pas intéressé par la politique, c'est un astronome, c'est un homme très droit, très sérieux, et les États généraux sont institués. La préparation aux élections des États généraux au cours des districts parisiens, Bailly dans le district très proche d'ici, est sollicité pour remplir les cahiers de doléances. Et même sollicité pour devenir député. Il devient député de son district, enfin élu par son district, et il dit un peu malgré moi, et en plus il se trouve précipité à l'Assemblée nationale, dont il va être élu, et très rapidement porté à une responsabilité que finalement il ne recherchait pas et même qu'il redoutait. Et il est tout de même conscient de son aura. Parce ne disait-on pas à l'époque, oui, il sera le président de l'Assemblée nationale, puisqu'il est trois fois académicien, donc il a toutes les qualités pour le faire. Et en fait, c'est un homme qui est surpris par son rôle. Et là où il est formidable, c'est qu'il y a quelque chose qui le bloque dès l'entrée. Il n'est pas possible que les trois ordres ne soient pas représentés également. Et là, il prend la tête finalement du tiers-État, dont il est un des élus, et il ne va céder sur rien quant à la séparation des ordres dans leurs décisions. Et ça va conduire au conflit sur lequel je me suis un peu attardé, au conflit politique, et à la collusion entre le roi, le clergé et la noblesse, par opposition au tiers-État, a conscience qu'il doit faire quelque chose, et au travers de tas d'incidents, si vous voulez, qui se succèdent dans un chamaillement, des débats un peu durs, un peu... Il y a finalement le jeu de paume, dont il est finalement le roi, c'est lui qui lance le premier serment du jeu de paume.
C'est lui qui est sur la table.
Oui, il était sur la table, du moins comme David l'a représenté. Voilà. Et refusant le fauteuil, mais montant sur la table et faisant le premier serment de tous les députés de l'Assemblée nationale du tiers-État. Et la chose miraculeuse, c'est que très rapidement se rallie une part du clergé, et puis secondairement, une grande part de la noblesse. Et se constitue l'Assemblée nationale.
Ce ne sont plus des États généraux, c'est déjà une Assemblée constituante.
C'est l'Assemblée constituante qui est née. Et là, le travail de Bailly est celui d'un très honnête homme, et en plus animé d'un espoir d'une République sage, raisonnable, etc.
Ou pas forcément d'une république d'ailleurs.
Non, en fait, je veux dire d'une monarchie constitutionnelle, pardon. D'une monarchie constitutionnelle très sage, très raisonnable, et qui va conduire au bonheur du peuple. Et là-dessus, il sera totalement fixé. Il a horreur de la violence. Il veut un compromis. Et dans le compromis, toujours faire la part des choses. Et il mène cette première partie de la Constituante magnifique. Et il va lui arriver des événements extraordinaires, puisqu'il va, après la prise de la Bastille, il va accueillir le roi à Paris, il va être nommé maire de Paris, et il sera maire de Paris jusqu'à la fin de la Constituante, c'est bien, en septembre 1791, voilà.
Et ce qui va l'exposer
et voilà. Et là, il va se confronter, si vous voulez, aux difficultés de la vie politique française, et il devient bientôt une cible. Et cette cible va l'engager à quitter la mairie de ce poste, justement en même temps que va être élu la législative, va commencer la législative, et là il va renoncer, et on va lui reprocher une chose essentiel, c'est le massacre du Champ de Mars, où, étant maire de Paris, étant avec Lafayette, qui lui était chef de la garde nationale, l'Assemblée vote la loi martiale, ils se rendent sur les lieux, on tire dans les gardes nationaux, il y a eu, dit-on, 200 morts, 300 morts et beaucoup de blessés, et là, il reste bailli, responsable des massacres du Champ de Mars.
La même assemblée qui a décrété la loi martiale lui reproche ensuite d'avoir obéi à la loi martiale.
Exactement. Et il a beau se justifier. Donc Bailly, pour moi, est un homme absolument extraordinaire. Et je peux dire que la fin est si ignoble que...
Vous la racontez.
Oui. C'est une fin absolument ignoble parce que en 92... Après l'abolition de la monarchie, il va se réfugier du côté de Nantes, puis ensuite il va être finalement poursuivi, arrêté, et en 93, il va être cité comme témoin au procès de Marie-Antoinette. On va lui reprocher plein de choses qui sont injustes, et il va être guillotiné dans des conditions ignobles sur le Champ de Mars. Voilà. Voilà. Et Bailly représente pour moi, car dans
ces... Au départ, on veut le guillotiner, si je ne me trompe pas, au départ, on veut le guillotiner sur le Champ de Mars, mais on décrète qu'un sang si impur ne peut pas souiller
exactement.
Le lieu où le massacre, et on transporte la guillotine sur un tas d'immondices, de façon lumière définitivement.
Ouais, exactement, dans des conditions absolument atroces. Et dans les souvenirs qu'il a écrits en 92, alors qu'il essaie de se justifier... raconte toute cette histoire et on sent un homme désespéré, c'est-à-dire un homme qui s'est engagé avec raison, avec enthousiasme et qui finalement s'est confronté à une hostilité de plus en plus sérieuse et finalement à une hostilité qui l'a conduit à la mort.
Il faut préciser que d'emblée, donc, c'est un homme des Lumières.
C'est un homme des Lumières, oui, c'est un homme des Lumières. C'est un homme qui était intervenu dans le... Bon, un grand astronome, il était intervenu, et mathématicien, et intervenu aussi dans le jugement de Mesmer, les baquets de Mesmer, où il avait dit que c'était un charlatan, etc. C'était un homme très, très rigide aussi, hein. Et son visage même était un visage très austère. Voilà pour l'un des hommes que, finalement, dont je trouve le parcours au cours de la Révolution est tout à fait exemplaire et peut-être le symbole de ce que, lorsqu'on s'engage dans une affaire comme ça, on ne pense jamais à l'adversité qu'on lève et que cette adversité peut aller très très loin.
Mais il y a un moment où on en vient à se dire qu'une fois qu'il, au départ, il se laisse happer, il n'est pas d'enthousiasme. Mais alors, moi, j'ai ressenti à travers le portrait que vous en faites une sorte d'aspect sacrificiel. C'est-à-dire qu'une fois que les événements dégénèrent, il doit assumer les choses
exactement.
Pour essayer de limiter au maximum les débordements, les effusions de sang.
Oui.
Et que c'est un homme d'une grande intelligence politique.
Oui, c'est ça. Oui.
Mais qui percevait la folie montante, la soif de sang, revanche, de vengeance. Voilà. Il faut évidemment rappeler qu'à ce moment, Paris est assiégé, il y a une guerre avec l'extérieur, des rumeurs qui circulent, des foules qui se soulèvent, et lui, homme des Lumières, plein de raisons, de pondération.
Et vous savez qu'il n'était pas seul, parce que, par exemple, quand on voit les textes d'un François de Pange, ou d'un Chénier, ou d'un Seyès, d'Abbé Seyès à l'époque, ils sont tous... Il y a un noyau qui aurait pu faire la monarchie constitutionnelle idéale. Il existait. Et il a été débordé par ce qu'on appelle la Commune, et non pas les communes, puisque les communes, c'était le tiers-État, mais la Commune de Paris, avec aussi là des êtres comme Chamfort, qui ont été des excitateurs à la violence.
Il va falloir en parler de celui-ci.
À la violence, et qui pensaient que la Révolution, en fait, ne pouvait avoir son code que dans la violence.
Oui, c'est là que chez Chamfort, pardonnez-moi, c'est osé et peut-être un peu cruel ou injuste à l'égard du personnage, vous allez nous le dire. On a le sentiment que chez lui, la violence n'est pas seulement un moyen, mais que pour une petite part, il s'en repaît.
Oui, là, exactement. Chamfort est un homme tellement curieux parce que c'est un homme qui a été... il était quand même secrétaire de la sœur de Louis XVI, hein, c'est quand même beaucoup. Il était absolument nourri, logé, entretenu par Vaudreuil, par des gens qui avaient...
Marquis de Vaudreuil.
Marquis de Vaudreuil, qui avait vraiment... qui lui mettait à sa disposition son hôtel particulier, sa bibliothèque, sa maison, sa table. Et qui, finalement, a été d'une agressivité envers la noblesse et ceux qui l'avaient aidé, que ça a même choqué les gens de l'époque, même les révolutionnaires, étaient choqués de l'attitude de Chamfort. Et là où moi, il m'a choqué le plus, c'est qu'à l'occasion des meurtres qui ont eu lieu à la prise de la Bastille et aussi celles qui ont eu lieu devant l'hôtel de ville sur des personnages qui, certes, étaient probablement responsables de beaucoup de méfaits, mais en fait, il a presque chanté, si vous voulez, l'égorgement de ces gens, disant que c'était la justice du peuple. Il a vanté la justice du peuple.
Oui, il faut décrire la scène pour comprendre ce dont il s'agit. Ah, oui. Deux malheureux sont écorchés vifs.
Oui, exact.
Le cœur, leur tête mise au bout d'une pique et promenée, bien entendu.
Et amenée au palais royal.
Le cœur de l'un d'entre eux arraché de sa poitrine et brandi devant la foule.
Oui.
Et voilà un homme de lettres qui va chanter
et un homme.
C'est absolument sidérant.
Oui, et un homme de lettres, donc, lorsque vous regardez sa production littéraire, on est étonné, si vous voulez, d'un tel paradoxe. Et d'ailleurs, si vous voulez, dans mon livre, je corrige un peu après cette image de Chamfort, parce que 2 ans après, alors qu'on est en 92, que le roi est au temple, à ce moment-là, les mêmes gens qui l'ont soutenu dans la violence, le même peuple qui l'a soutenu, ils le traitent de brigand.
Oui, mais d'ailleurs, il y a un texte où il explique que sa vie est un tissu de paradoxes.
Oui, exactement.
Alors, je ne vais pas moi-même m'ériger en tribunal révolutionnaire, mais c'est un peu facile pour s'exonérer. Les paradoxes sont aussi des contradictions. On a plutôt l'impression d'une anguille, de quelqu'un qui se repositionne sans cesse.
Oui, sans cesse, oui.
Pour être du bon côté.
Oui. Mais je pense
Je
pense qu'il était un malheureux aussi. Je crois qu'il était...
Il a des comptes personnels à régler.
Oui, voilà. Il a des comptes personnels à régler. En plus, il est malade. En plus... il a eu un grand amour, les mortes, etc. C'est un homme troublé dans son comportement et qui vaut une haine à l'aristocratie qui n'est pas justifiée parce que finalement, il a eu sa place. Et l'Académie française, il l'a eu aussi hors vis-à-vis de l'Académie française.
Oui, c'est la question que je voulais vous poser.
Où ses électeurs il les bafoue en 1791 en demandant la suppression de l'Académie française devant l'Assemblée nationale, avec la tutelle de Mirabeau, lequel Mirabeau est déjà mort à ce moment-là. Mais Morellet lui fait une réponse absolument merveilleuse en reprenant Chamfort a fait pour être académicien, et là c'est assez étonnant.
Ah bah peut-être qu'on peut lire la réponse de Morellet, ou peut-être une partie du discours de Chamfort. Alors évidemment, ce qui est gênant avec Chamfort, c'est qu'il a la plume très acerbe.
Oh là, oui.
C'est d'autant plus choquant, c'est qu'on sent que c'est quelqu'un qui manie excessivement bien la langue, et que donc pour exciter les passions les plus tristes.
Oui.
Il est incroyablement doué.
Ah ben il est très doué. Et puis il a des formules lorsqu'il liquide quelqu'un, c'est des formules absolument radicales. Hein.
Alors donc voici après avoir donc critiqué l'Académie devant donc l'Assemblée de façon à obtenir sa suppression. Donc
ce n'est pas
juste un trait d'esprit dans un
salon. Non.
Il y a des choses qui sont en jeu. Ça mérite d'être rappelé. Le discours, donc, un extrait du discours de Chamfort qui s'abrite de surcroît derrière Mirabeau, qui est déjà mort à ce moment-là.
Oui, c'est ça. Oui.
Téméraire, mais prenant des assurances quand même. Donc, il parle des académies en disant « Tous les vicieux effets d'une vicieuse institution, tels sont à la longue les effets de cette dégradante disposition qui, si l'on veut chercher l'exemple de la plus vile flatterie où des hommes paraissent descendre, on la trouvera, qui le croirait, non dans la cour de Louis XIV, mais dans l'Académie française.
Oui.
Et il y en a comme ça, des pages.
Oui, des pages et des pages.
Des pages,
des pages et des pages.
Donc l'abbé Morellet, lui, répond par la suite. L'abbé Morellet, qui lui a à cœur de sauvegarder l'institution, lui répond avec beaucoup plus de mesure, et du coup l'impact est terrible.
Terrible.
Lorsqu'un homme, écrit-il, membre d'une compagnie où il a désiré et sollicité d'être admis, et dont il n'a jamais eu à se plaindre personnellement, attaque son corps avec tant de violence, il est, me semble-t-il, soumis à 2 obligations indispensables. La première, d'être bien assuré de la réalité des actes qu'il révèle, des délits qu'il dénonce. La seconde, en supposant qu'il ait reconnu cette dénonciation comme un devoir envers la société, de s'être assuré qu'aucun autre que lui ne se chargerait de le remplir. Quelques observations me persuadent que M. de Champfort n'a observé ni l'une ni l'autre. M. de Champfort a eu sous les yeux les déroulements de l'Académie dont il n'a raté aucune manifestation. Il concourait pour les prix. Il passait sa vie avec des hommes de lettres dont il souhaitait devenir le confident. Il était plusieurs fois couronné de leurs mains. Depuis son admission, depuis 10 ans, aucun académicien ne s'est montré plus assidu que lui. 3 fois par semaine, il a partagé les travaux de l'Académie. Ce qui oui. reste se démontre en, oui. en consultant les registres
oui.
que vous avez.
Oui, absolument, oui, oui, j'avais les registres sous les yeux. Hein.
Quelles nouvelles lumières ont donc éclairé M. de Champfort sur les vices de l'institution qu'il dénonce à la nation après avoir passé 10 ans dans son sein sans les apercevoir ? Ce genre de délation s'appelle patriotisme et vaut à ceux qui les ouais, ça, se montrent ainsi une sorte de gloire appelée popularité qui les conduit souvent à des avantages plus réels. Lorsque M. de Champfort a vécu avec des gens de la cour et des gens en place, espèce d'homme qu'il poursuit aujourd'hui avec un acharnement qui dégoûte même ses ennemis, ce n'était pas pour les ennuyeux dont ces salons abondent qu'ils cultivaient leur société, c'était pour les gens de bonne compagnie qu'il y trouvait aussi quelquefois. Son discours est en effet au nom de M. de Mirabeau, qui devait le lire à l'Assemblée nationale. Mais quoique cet orateur n'eût pas à beaucoup près le goût fin en parlant au corps législatif, il ne se fut jamais permis des expressions si insultantes. Il eût présenté l'Académie comme un établissement inutile et dangereux, mais il ne l'eût pas appelé ridicule, et il est arrivé à M. de Champfort, comme au mauvais auteur tragique, de faire parler à son héros un langage déplacé.
Oui, oui, non, c'était... D'ailleurs, il n'a pas eu de succès, hein. Il n'a pas eu de succès. Même à l'Assemblée nationale, même Robespierre était contre à ce moment-là. Robespierre n'était pas pour dissoudre l'Académie. Et donc, il est tombé à plat. Et les confrères ont mal réagi. Et finalement, Morellet transcrit tout ce qu'ils ont pensé de cet acte. Mais avec son culot... Parce que, je dis un culot, parce que avant de... Quand Mirabeau étant mort, Mirabeau lui ayant donné la matière de son discours contre l'Académie, il se dit, oh là là, est-ce que je vais pas... Il hésite. Il se dit, après tout, est-ce que j'y vais ? Donc il hésite, et puis tout à coup, on sent que il aime bien les titiller les autres, il aime bien se faire une place d'agresseur. Et il se lance dans l'affaire, il va perdre d'ailleurs. Et ça ne va pas le servir. Tout le reste de son temps pendant la Révolution va être au fond une certaine rancœur. Et aussi la notion qu'il a raté son coup. Et puis il va devenir beaucoup moins révolutionnaire, sinon qu'il va devenir même un Girondin. Après avoir été Jacobin, il va devenir un Girondin. Donc c'est un curieux personnage. Il se justifie après, pas longtemps après, puisqu'il est mort très, très rapidement, mais il se justifie après dans des textes qui apaisent, qui gomment cet aspect un peu méchant garçon. Hein.
Ouais. Il était donc soucieux de sa postérité.
Oui, exactement. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, elle existe, la postérité. Il a gagné. Il a gagné dans un sens.
Oui. Il est connu pour ses bons mots, mais lorsqu'on le replace dans le contexte, oui. Ils n'ont plus la même saveur.
Ah non, pas du tout. Pas du tout. Il est très méchant. Très méchant. Très méchant.
Ouais. Alors c'est vrai que tous évoluent. C'est-à-dire que dans chacun, on pourrait trouver des citations qui pourraient les faire passer presque pour des monarchistes acharnés.
Oui.
Des déclarations qui pourraient les faire passer pour des révolutionnaires enthousiastes.
Ouais,
mais chez la plupart, il s'agit de se repositionner par rapport à des événements avec une intelligence politique et une volonté de trouver sa voie dans une époque très troublée.
Oui.
Finalement, parmi la plupart des académiciens, c'est cette position-là qu'on trouve, je trouve.
Oui.
Une volonté de maintenir,
oui.
non pas l'ancien régime,
non.
mais une forme d'ordre et de continuité de l'esprit,
voilà.
et
oui.
la paix civile en tout cas.
Exactement. Et malheureusement, ça va se gâter. Entre Varennes et le 10 août 92, c'est-à-dire la chute des Tuileries et la fin de la monarchie, on sent que là se tendent les choses. Et se tendent les choses, on le voit au travers de toutes les vies des académiciens. Un Marmontel va se cacher, il va fuir, il a peur de tout ça. Morellet va résister. Oui, même avec bravoure, à Paris, la plupart... Enfin,
oui, parce qu'il y en a beaucoup qui vont à la campagne, en fait.
Oui, voilà, à la campagne, même de plus en plus loin. Marmontel va échappé et ne va plus assurer son secrétariat perpétuel. Et qui va le seconder alors, le remplacer, c'est Morellet. Car Morellet va jusqu'à la fin jouer le rôle de secrétaire perpétuel, puisqu'il n'y en a plus, puisque Marmontel est parti. Donc un bon tiers, si vous voulez, est en train de chercher les moyens d'échapper à la tourmente. Et puis il y en a d'autres, un autre tel que Condorcet. Condorcet qui, au début, attend. Au début, il a déjà sa révolution dans la tête, lui, depuis 10 ans. Avec vraiment une intuition, une intelligence qui est admirable. Condorcet est un homme admirable.
Et lui, il a écrit le programme avant les événements.
Ah oui, 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 il a écrit le programme et il avait déjà tout.
Pas le déroulement, le programme.
Ah oui, 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 non, mais c'est un homme. Et il ne rentre finalement, il n'est pas élu à l'Assemblée constituante. Il est refoulé par les nobles. Hein. Il a voulu être dans le tiers état, on a refusé. Il se présente chez les nobles, il est éliminé, il n'est pas élu. Chamfort n'avait pas été élu non plus. Et Condorcet donc attend, et puis il attend la période des législatives. Et les législatives fin 91 jusqu'à l'abdication, jusqu'à la fin de la monarchie. Jusqu'au 10 août. Et là, il va rentrer dans le jeu avec tout son talent, son honnêteté profonde et peut-être l'absence de sens politique absolu. Car finalement, il ne joue pas au compromis. C'est un homme ferme. C'est un homme quelquefois méchant. Car il y a beaucoup d'articles dans les journaux, les moniteurs, etc., qui ne sont pas signés de lui, qui sont d'atroces portraits d'un Robespierre, hein, avec des jugements qui sont atroces, petit curé qui a du bonheur auprès, enfin qui a du pouvoir auprès des femmes,
Oui, à la fin il ne restera que ça.
Oui, exactement. Oui, oui, non, il a Condorcet peut être méchant. Par contre,
il était effrayé par cette pulsion de vertu qu'il voyait chez Robespierre.
Ah oui, 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 oui. Ah mais oui, oui. Comme
parce que lui il reste ferme, mais c'est un modéré.
Voilà, c'est un modéré
qui voit la nature humaine.
Et pendant jusqu'à l'abdication du roi, il est monarchiste quand même. Quand même, alors que depuis toujours, quand il était à la Monnaie, à côté, qu'il était directeur de la Monnaie, et en plus quand il était rue de Lille dans son appartement après, avec Sophie Grouchy, son épouse, et qui était un lieu finalement de pensée politique révolutionnaire, plutôt révolutionnaire, mais révolutionnaire encore constitutionnaliste à ce moment-là, mais après l'abdication du roi, immédiatement. Déjà, la fuite à Varennes dit « on n'a pas besoin d'un roi ». Vous voyez, il peut partir, on n'a plus besoin. Donc, 92, pour lui, c'est du pain béni. Et il veut être élu à la Convention pour agir. Et à la Convention, il est refusé à Paris, mais élu par 5 ou 6 départements qui lui permet de revenir à la Convention. Avec quand même dans ses poches, un traité pour l'éducation qui est magnifique, avec la parité entre les filles et les garçons, des méthodes d'éducation qui seront le triomphe de nos parents instituteurs. Hein. Et la deuxième chose, c'est l'idée que la Constitution de 1791 de la Constituante ne sera pas appliquée. Il faut refaire la Constitution, et là, il fait une Constitution, alors qu'il était jacobin, girondine. Car tout à coup, il s'aperçoit que chez les jacobins, il y a une violence qui ne veut plus. Donc, il redevient girondin, et de redevenir girondin, c'est sa chute. Car on le bafoue, on refuse sa constitution, on la caviarde, on ajoute quelques petites choses, et puis finalement on dit que c'est la constitution de la Convention. Et lui, à ce moment-là, est d'une violence extrême en disant, voilà, il faut que l'armée soit dehors ou la foule soit dehors, il faut que vous soyez menacés pour voter sous contrainte des textes qui sont faux, qui sont ceci, qui sont cela. Et on le met en état d'arrestation et il se réfugie grâce à Cabanis qui est médecin, et qui a deux amis médecins, dont un est conventionnel, mais qui habite chez une logeuse, et ces gens ne diront jamais rien, hein, du lieu de refuge de Condorcet, qui reste là presque un an et demi. Et on sait comment va se terminer la chose. Et là, Vic d'Azyr intervient aussi, puisque Vic d'Azyr, lui, ancien médecin de Marie-Antoinette, est collecteur de salpêtres dans les caves de France. Et comme il doit aller faire la visite de la maison où il sait que son ami Condorcet est là, il vient en criant très fort, « Je dois repasser dans 5 ou 6 jours, etc. etc. » Et on dit, on va vous arranger, on va vous cacher. Condorcet ne veut pas, il part et ça va être cette mort épouvantable, abandonnée par son ami Suard, enfin abandonné, en tout cas, soumis peut-être à la légèreté de Suard, et il va mourir dans des conditions épouvantables. Voilà.
L'histoire de la plupart de ces personnes est tragique.
Tragique. Ce qui est le plus étonnant, et ça peut servir quand même d'exemple dans l'histoire, ces gens qui sont les plus raisonnables, qui finalement ont le plus de capacité de créer, sont bafoués et sont évacués d'une façon ou d'une autre par une foule qui ne veut pas ça, qui a d'autres espoirs et probablement une utopie. Une utopie
ou qui est utilisée par des démagogues.
Voilà, oui, utilisée par... Exactement. Exactement. C'est une leçon politique terrible. Terrible. Hein? Et moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Condorcet. Bailly, Condorcet sont des gens qui, pour moi, représentent les honnêtes hommes qui essaient de composer avec l'humanité en sachant ce qu'est l'humain. C'est-à-dire avec ses failles, etc., essayant de faire un compromis toujours accepté, et qui échoue d'une façon terrible.
Oui, parce que la période est rude, mais la leçon reste vraie. Ouais. On sent avec eux que le politique est l'art du possible. La preuve, c'est d'abord pour une monarchie constitutionnelle, non pas parce que c'est son régime légal, mais parce qu'ils pensent que c'est possible à ce moment-là, sans fusion et drame et guerre civile. Oui. Ensuite, si le pouvoir royal s'est évanoui, eh bien, il revient avec son projet de république, mais ce n'est pas de l'opportunisme, c'est que les circonstances ont changé. Oui. Et rendre possible et même nécessaire d'occuper cette place vide.
D'ailleurs, il ne votera pas la mort du roi. Condorcet...
Alors justement, puisqu'on parle de la mort du roi, il y a une très belle figure aussi, mais plutôt du camp adverse, c'est Malesherbes.
Ah, oh, Malesherbes, c'est quel homme admirable. Parce que Malesherbes, c'est Turgot. C'est déjà Turgot et c'est déjà Condorcet.
Il aurait pu éviter la catastrophe, oui.
Oui, si Turgot, Condorcet et Malesherbes avait pu mener à bien pendant les 6 ou 7 ans qu'il demandait pour le faire, il n'y aurait peut-être pas eu la réunion des États généraux, il n'y aurait peut-être pas eu la Révolution. Et là, c'est une figure absolument extraordinaire, un homme intelligent, qui a aussi mis en garde le roi par des textes de grand courage. Quand tu disais à un monarque, il vous faut une constitution, parce qu'on ne peut plus vivre maintenant sans constitution. Et quand le monarque, quand il va annoncer à Louis XVI qu'il est condamné à mort, et qu'il dit, et Louis XVI lui dit, oui, vous me l'avez dit. Et Malesherbes dit, oui, mais je vous l'avais dit, sire.
Ouais. Hein? Et ce qui est admirable, c'est que Malesherbes fait partie, si je ne me trompe pas, des émigrés.
Oui.
Et il décide de revenir pour assurer la défense des rois dans une période où, quand même, c'est risqué sa peau.
Il allait vers la mort.
Voilà. Hein? Mais En conscience.
Alors,
même qu'il aurait pu, comme vous le dites, se laver les mains en disant « Je l'ai bien prévenu, il ne m'a pas écouté, la catastrophe est arrivée, mais... »
Et il est venu et il a écrit à la Convention pour avoir l'autorisation de défendre le roi, alors que Targé, qui avait été sollicité par le roi, a refusé. Targé, qui était un grand avocat, mais qui, lui, s'est dégonflé.
Alors vous dites qu'il a quand même, produit
un texte
qui a été distribué.
Oui, mais à qui ?
Mais pas dans l'enceinte de la Convention, oui,
voilà, à qui a-t-il dit ? Il est beau, son texte. Son texte était très beau. Mais finalement, d'ailleurs, c'était un très grand avocat. Et Louis XVI l'avait choisi. Il lui avait demandé de le défendre.
Alors, cette phrase de Malesherbes est superbe. Lorsqu'il fait la demande à la Convention de pouvoir défendre Louis XVI... Il écrit ceci, « J'ai été appelé 2 fois au conseil de celui qui fut mon maître dans un temps où cette fonction était ambitionnée de tout le monde. Je lui dois le même service lorsque c'est une fonction que bien des gens trouvent dangereuse. »
Oui, oui.
En peu de mots.
Ah oui, c'est magnifique. Finalement, il savait que c'était janvier 93. Il a vécu 93 dans sa propriété à Malesherbes. Et il a été de plus en plus visité, des visites domiciliaires par les gens, par les le peuple de l'époque, enfin les syndics de l'époque, et il savait qu'il allait être arrêté. On a arrêté sa fille, son gendre, sa petite fille, et lui-même, deux jours après. Et là, il a réussi à les regrouper ensemble dans la même prison. Et il a témoigné d'un courage et d'une détente et d'un humour absolument extraordinaire. Vous savez qu'on situe cette phrase quand il est conduit à l'échafaud, il bute dans une chose, il bute avant de monter dans la charrette, il bute et puis il dit « Si j'étais romain, je considérerais ça comme un mauvais présage. » Non, faut le faire, hein, faut le faire quand vous allez mourir avec votre famille, hein.
Mais Bailly, une sorte de bonbon aussi, beaucoup de panache, parce que l'un de ses bourreaux le moque en lui disant « Mais alors, tu trembles maintenant oui. ?» Lui qui, quand même, effectivement, a contribué aux libertés nouvelles, c'est la même qui le torture, et il répond de froid.
Et on est, et on est fin novembre, il pleut depuis son... Il pleut, il est en chemise depuis le départ de la conciergerie. Dans tout le trajet, il a été conspué, battu, et... Il tremble de froid. Oui, je tremble de froid.
Pas d'autre chose.
Pas d'autre chose. Non, mais c'est des hommes extraordinaires. Malesherbes aussi est un exemple de cette catégorie d'hommes qui devraient gagner en réalité et qui ne gagnent pas. Et c'est là, si vous voulez, dans ce livre qui m'a retenu quand même pas mal de temps, parce que vivre le destin de chacun d'entre eux...
Oui, parce qu'ils sont très nombreux, on évoque les principaux, mais il y en a des...
Oui,
il y a une quarantaine.
Ah bah oui, il y a ceux qui fuient, bon, il y en a beaucoup qui partent en Angleterre, qui rejoignent les princes, il y a Nicolai, qui est un
anarchiste convaincu, celui-ci.
Ah oui, convaincu, et qui d'ailleurs émigre et vient aussi. Son frère, évêque, étant prisonnier au moment de la terreur, revient en France parce qu'il est avocat pour défendre son frère. Et il sait qu'il va mourir. Et non seulement son frère meurt, lui meurt et son fils meurt. Ils sont tous guillotinés. Et c'est des actes de courage quand même incroyables. Incroyable. Ou alors penser qu'il y aura un petit miracle qui les sauvera. Je ne sais pas. Il y a eu une époque à partir de la fin 93 et tout le début 94. On ne pouvait plus rien croire. Le procès de Marie-Antoinette est une mascarade. Le procès de Bailly est une mascarade. On sait très bien qu'on ne peut plus rien faire, qu'on va mourir. Et ils viennent. Et ils viennent.
À propos de ces procès qui sont des mascarades, le libelle de Tarjep est intéressant, car c'est au nom même des principes des Lumières et républicains et de séparation des pouvoirs qu'il conteste la façon dont se déroule
le procès.
Oui. Mais on sent que ces arguments-là font redoubler de fureur. Ah, oui. Ce n'est même pas qu'ils ne touchent pas. Oui. Les adversaires, cette intelligence et la façon dont il leur remet leurs principes sous les yeux, en réalité, le condamnent d'autant plus.
Non, mais déjà Robespierre et Saint-Just ont contesté la possibilité de faire un procès. Déjà, qu'il y ait un procès a été, au fond, l'ébauche d'une procédure légale, qui était totalement illégale. Et Tarjet le démontre très bien.
Oui, si je me souviens bien, il dit puisqu'il n'est plus roi, il est donc simple citoyen. Eh ben
exactement, donc il doit être jugé comme ça. Voilà, exactement.
Hein? Qui aura une force symbolique d'autant plus forte.
C'était très. Bon, mais il y a. Quand on voit les arguments du vote des conventionnels pour la mort, existait déjà, comme il peut exister maintenant, l'impossibilité de dire ouvertement, parce que il fallait aller à la tribune et annoncer soi-même son vote. C'est Marat qui l'avait demandé, avant qu'il soit tué par la chair cordée. Voilà. Que ce soit nominal à la tribune, le nombre de gens qui s'effondraient, il y a eu des livres très bien faits là-dessus sur les comportements d'avant et pendant. avant des gens qui disaient Philippe Égalité, est parti de chez lui en disant à sa famille, ne vous inquiétez pas, je ne voterai pas la mort. Et en place, face à la foule qui est hurlant, il vote la mort. Et à ce moment-là, tout le monde hurle en disant, c'est pas possible qu'il ait osé voter la mort de son cousin. Mais en réalité, il a dit après, je ne pouvais plus faire, je ne pouvais pas le faire. Je ne pouvais pas ne pas voter la mort, tellement il était effondré, effrayé par cette foule. C'est une période vraiment très, très, très terrible.
Et intéressante.
Et très intéressante, elle est passionnante.
Pour l'histoire et pour l'étude de la nature humaine aussi.
Oh là là, oui, oui, non mais d'ailleurs, vous savez, c'est ça qui m'a intéressé. Et puis en plus, ce milieu très clos, 35 personnes qui sont amies, vivre...
Oui, qui se voyaient trois fois par semaine.
Voilà, trois fois par semaine. Et imagine, moi j'imagine, si vous voulez, les relations très amicales, fraternelles même, avec beaucoup de mes confrères. Nous nous voyons toutes les semaines, eux se voyaient trois fois par semaine. Et travaillaient bien, ils travaillaient beaucoup, hein, trois fois par semaine. On voyait plus que les membres de leur famille. Et tout à coup, alors qu'il y avait une tolérance, puisque même quand on avait voté contre, après on considérait que c'était acquis. Tout à coup, renaît au sein d'une cohorte très petite, tous les courants qui vont se dessiner. Et puis il y en a qui vont réussir à naviguer presque tout le temps, sans qu'on parle beaucoup d'eux, et qui vont s'en sortir. Oui.
La nature humaine. Ce qui est touchant aussi, en tout cas je l'ai pris de cette façon, c'est la façon dont tous, en tout cas jusqu'à la terreur du moins, et la suppression avant de l'académie, s'attachent à participer aux séances.
Oui, parce jusqu'à la fin.
Et pas parce que ce sera un lieu d'influence où les choses se jouent, parce que les choses se jouent plutôt à l'Assemblée, parce qu'ils ont été élus, ils ont le sens de la dignité de leur charge.
Oui, c'est le devoir.
Et ils continuent à travailler, y compris sur des choses qui n'ont aucun rapport avec la situation politique.
Ah non, absolument, absolument. Alors, ce qui a été aussi étonnant, c'est que ceux qui ont, après la suppression de l'Académie en 1993, ceux qui sont restés et qui n'ont aucune idée, c'est de reconstituer l'Académie. Et là, tous les efforts pendant le directoire de Morellet, pendant le consulat de Morellet, qui parviennent à reconstituer une ébauche d'Académie qui n'est plus l'Académie, et même qui, souvent, sur le plan de la dispersion des anciens académiciens, tend plutôt à diminuer l'importance de l'Académie française. Et puis lorsque, sous le consulat, à cause de Lucien Bonaparte, que connaissait Morellet, on repart, et là, Bonaparte veut bien créer une académie à peu près similaire, mais en refusant le terme d'Académie française, car il n'ose pas. C'est quand même
trop
étonnant.
Trop porteuse de symbolique d'ancienne origine, donc c'est une section, c'est ça ?
C'est étonnant. Il y a trois classes, mais il ne dit pas qu'il y a l'Académie des sciences, l'Académie française, et c'est tout de même étonnant. Et parce que Napoléon, même pendant l'Empire, alors que Morellet le tanne, lui dit « Mais écoutez, c'est quand même pas possible, vous avez refait l'Académie, c'est l'Académie française. » Eh bien non, il ne le dira pas. Et c'est Louis XVIII qui le fera avec une fameuse épuration. Ça aussi, ça rentre dans l'histoire de l'Académie. C'est étonnant, ça aussi.
Oui, car l'histoire de la Révolution ne se termine pas par la République, mais comme vous l'avez dit, il faut se traverser après ces troubles.
Oui.
L'Empire de la Restauration.
Oui, c'est une période extraordinaire. Enfin, ça pourrait être un conte et on croirait difficilement que ce soit vrai.
Oui, l'éditeur penserait qu'on en fait un peu trop.
Oui.
Dieu merci pour vous, c'est l'histoire vraie.
C'est l'histoire vraie, du moins j'espère.
Et comme l'Académie a parfaitement ressuscité, je sais que vous êtes attendu pour une séance où de surcroît il y a une élection.
Exactement.
Donc nous sommes obligés d'écourter cette émission, mais parce que la vie de l'Académie continue, et c'est bien entendu tant mieux.
Et c'est grâce à Morellet.
Grâce à Morellet qui est vraiment une des belles figures.
Oh, elle est très belle. Très belle figure. Oui, très belle figure.
On sent aussi que c'est quelqu'un d'humble, qui ne fait pas d'effet de manche, mais qui a l'intelligence des patients.
Ah oui, qui est un homme exceptionnel.
Et que nous invitons à découvrir, donc en vous plongeant ainsi que d'autres figures, plus ou moins de toute nature, dans ces temps troublés, dans l'ouvrage d'Yves Pouliquen de l'Académie française, Les Immortels et la Révolution, c'est aux éditions Odile Jacob, une tranche de l'histoire de l'Académie et bien entendu du pays tout entier à découvrir d'urgence. Merci beaucoup, monsieur.
Je vous remercie moi-même. Thank you.